Bienvenue sur Terme Salle de Pain, l'émission de Cap Magellan sur Radio Alpha. C'est Léa et j'espère que vous avez passé une bonne semaine sous ce soleil. On a eu de la chance, quand même. Et avec moi, l'équipe Julie, Tony et Antonin.
Salut, au complet, toujours présent.
Ouais, toujours au complet. Et aujourd'hui, notre invitée, c'est une journaliste, alors rédactrice, JRI, chroniqueuse. Elle a un joli bagage et c'est Laetitia Simoui.
Hola, boa tarde.
Merci Laetitia d'être avec nous aujourd'hui.
Bah merci à vous de m'inviter, je suis honorée.
Ça va être cool, ça va être très très cool. Et je suppose que t'as pas l'habitude d'être interviewée en tant que journaliste, c'est plutôt l'inverse.
Absolument, hein. C'est trop bizarre d'être là. Je suis hyper impressionnée.
Allez, on inverse les rôles cette fois-ci sur Termstad. Deux points, on va découvrir ton métier, cette passion envers l'actualité. D'ailleurs, il y a quelques temps, tu étais en Ukraine pour couvrir ce conflit.
Oui.
Alors si tu veux bien, on découvrira l'arrière du décor et ton ressenti dans ce genre de situation. Mais avant tout cela, voilà, un peu de fun, le blind test. Alors, si je te dis blind test, ça va, t'es habitué à en faire?
Avec Shazam, je suis trop
avec
forte.
Shazam.
Je suis une vraie tricheuse. Oh, ça dépend. J'écoute de tout, donc ça peut fonctionner.
Alors, si Antonin nous autorise, voilà, on utilise Shazam pour aujourd'hui.
Là, ça l'arrange, Tony, tricheur de l'équipe. Là.
Allez, le temps de se préparer dans moins de 5 minutes. On va écouter As It Was de Harry Styles et on revient juste après. Sur TFChat 2.1 pour bien débarrer cette émission. Alors, Laetitia, on est prête à utiliser Shazam, non?
Je vais essayer 100 d'abord, quand même.
Je savais d'ici.
Ça se trouve, je suis forte. Hein.
Alors, si tu les auras, aujourd'hui, je me suis concentré sur l'actualité musicale pour vous faire découvrir ce qui est sorti récemment, ce que, des petites anecdotes par-ci par-là sur des trucs qui sont arrivés dans le monde de la musique lusophone et mondiale en général aussi. Donc, c'est parti pour maintenant le premier extrait de ce blind test à mon goût.
Attention à toi. Ton jeu, je le connais déjà. Tu livres, ça ne changera pas. Oui, fais bien attention à toi.
Laetitia a déjà trouvé la bonne réponse.
Ouais, j'ai entendu dès la première seconde, elle était au taquet.
Ah, okay.
Pas besoin de Shazam.
Ouais, je connais même les paroles et tout. Bah, Angèle.
Ouais,
Angèle, la base. Libre ?
Ouais, bien joué.
Waouh.
C'est sorti en décembre dernier, donc c'est pas tout frais. Mais comme tout le reste de son album 95, c'est vraiment un album qui a des succès mondiaux. Et c'était son deuxième album de sa carrière d'ailleurs. Et Dieu sait comment faire un deuxième album après la réussite que le premier a été, Brom, a été. Donc on peut dire que vraiment elle a surpassé ses attentes avec Bruxelles Vautem, Démon, en collab avec Damso. Voilà, c'est un bon gros disque, double disque de platine. Et du coup, il y a une semaine en fait, je vous en parle pour ça justement. En fait, elle a sorti le clip de ce son, Libre. Donc elle a sorti le clip donc il y a une semaine et dans lequel on la voit vraiment libérée. Elle a des coupes de cheveux de malade parfois. Une coupe bleue qui m'a beaucoup marqué.
Vous
irez voir ça. Pas tout de suite non plus.
Ça tirait bien.
qui sait. Voilà, donc je vous invite à aller voir ce clip parce qu'il est super sympa à voir. Il a été réalisé avec soin. Et on passe maintenant au deuxième extrait de ce blind test. Allons-y.
Não sei quanto tempo demora a esquecer a solidão que tu deixaste à minha porta ao levares o meu coração. Escondes o que queres dizer, só pelo medo de me ver sofrer, mas não dá.
Alors.
Carolina Jones.
Arrêté.
Non, c'est. Comment ça s'appelle? C'est. Non, c'est.
C'était pas la Chica Rivera?
Non, c'est. C'est ça le courrier.
Arrêté.
C'est ça?
Non, c'est pas
Barbara Mendel,
non?
Si, c'est
Barbara Mendel. Ah ouais,
mais il fallait
Barbara Mendel. On les a presque tous fait. Hein.
Ouais, là, clairement, vous avez fait toutes les femmes de la musique portugaise.
Non, il manque Barbara Tinoco.
Ah oui.
Ah, c'est Ondevaille avec Hermine.
Ondevaille,
exactement.
Ouais.
Et justement, j'ai fait exprès de ne pas mettre le refrain pour comme ça.
Ah, c'est pas juste.
Eh oui, non, parce que celle-là, on la présente plus. Je pense qu'on va la passer tous les 4 matins ici. Mais je suis bien content que vous l'ayez quasiment tous trouvé, du coup. En tout cas,
oui,
reconnu.
Oui,
pas moi.
Mais oui, donc c'est Barbara Mendel et Carmine qui interprètent On The Vibe. Et pourquoi je vous en parle? C'est parce qu'en fait, hier, elles ont gagné le prix de la chanson de l'année pendant la 4e édition de Play, donc où Play musique musique portugaise. Donc elles ont été récompensées dans cette cérémonie-là avec d'autres musiciens. Donc je vous invite à aller voir les résultats. Il y a des très beaux artistes à découvrir. Voilà, et on passe sur un artiste qui n'est pas à découvrir lui non plus. Vous allez les reconnaître, mais on s'éloigne un peu du monde lusophone. Vous allez voir.
Mask off,
quasiment. Oh, mask off. On, c'est une mais mask off, c'est une enlève.
Par contre, l'artiste, tu vas me dire le nom, je vais faire A, mais là.
Du coup, prépare-toi à faire A, c'est okay. Future.
Ah mmh.
Elle est forte, hein, quand même. Ça, c'est fou. Bah en fait ce son c'est un son qui est mondialement connu maintenant de nos jours. Il est sorti il y a pas très longtemps, je crois il y a un an ou deux ans même pas. Et en fait c'est un remix, ça contient un sample de la chanson Prison Song de Carlton Williams qui est sorti en 76. Et cette musique fait d'abord partie de l'album Selma, donc album qui est dédié à Martin Luther King par Carlton Williams. Parce que Marche de Selma, lutte contre les droits contre la ségrégation. Enfin voilà, vous faites le lien. En tout cas c'est une musique très forte qui a servi d'inspiration à Future, ce rappeur américain. Et d'ailleurs je vous parle de ce rappeur américain Future parce qu'en fait il a sorti son nouvel album I Never Liked You avec 22 titres, donc bien chargé en musique, du nouveau contenu, tout ça de sa part, et avec des bonnes grosses collabs comme Drake, Kanye West, Young Thug et bien d'autres. Je vous invite à aller voir ça, c'est vraiment du lourd,
les meilleurs.
Exactement. Allez, c'est parti maintenant pour le 4e et avant dernier extrait de ce blind test.
Moi, je
Lady Gaga, non?
Ouais.
Ah bon.
Je vais être hyper corpo. On a fait un sujet hier dans le 12-45 de M6. C'est pour la BO de Top Gun 2. C'est ça?
Ouais, exactement. Top Gun Maverick.
Oh, j'ai bien suivi.
On va sortir deux semaines, je crois, le 25 mai en France. Qui sort le. Je crois qu'il est peut-être déjà sorti aux États-Unis. C'est une différence.
Est-ce qu'on écoute, c'est la BO, là?
Ouais, ça fait partie de la BO du film.
Voilà, et le titre, du coup?
Ah,
est-ce que c'est Hold My Hand ou pas?
C'est Hold My Hand.
Ouais, c'est ça.
Voilà. De Lady Gaga, donc c'est un petit retour de Lady Gaga, ça fait plaisir, surtout pour pas n'importe quel film. Et on va finir en beauté, en lusophonie, avec le dernier artiste de ce blind test qu'on va présenter aujourd'hui. Vous connaissez déjà, vous allez voir pourquoi. Allez, je vous compte sur vous pour le trouver, ainsi que le titre. C'est parti.
Descobri que o tempo para, e o mundo não separa, o meu coração do teu.
C'est Marisa. Mind Marisa.
Très très solide ici dans la salle. Donc sorti il y a un an maintenant, c'était son anniversaire la semaine dernière, ou un peu plus si je me souviens bien. Et d'ailleurs
pour la fête des mères.
Bon, mais tu veux faire ma rubrique à ma place.
Elle commence à bien connaître. Hein, t'as du souci à te faire là.
En même temps, le titre s'appelle Mine, ça va, c'est pas trop compliqué.
Bah, écoute, on fait pour le plaisir.
Et on l'avait déjà présenté dans une rubrique musicale.
Il ouais, y a un petit moment déjà. Mais écoute, ça fait pas du mal de la ressortir. Parce que oui, c'était, comme tu l'as dit, la fête des mères au Portugal. Parce que c'est toujours le premier dimanche du mois de mai. Donc bah, j'espère que vous l'avez souhaité. Sinon, vous
et le dernier du mois de mai, c'est en France.
Exactement. Donc vous pouvez vous rattraper avec celui de la fête des mères françaises si vous l'avez oublié malencontreusement. Écoutez,
voilà, on peut toujours se rattraper.
Exactement.
Et on va se quitter avec Balwa Bandai dans le Baïch. Et juste après, on va faire un petit tour autour de l'actualité sportive avec Tony. Alors restez bien avec nous pour découvrir les gagnants de la semaine. A tout de suite.
Quanto tempo demora a esquecer a solidão que tu deixaste à minha porta ao levares o meu coração. Escondes o que queres dizer, só pelo medo de me ver sofrer, mas não dá. Ai, nada nos une, só nos mantém. E tudo muda, nós mudamos também. Talvez o amor seja assim, mas tudo o que eu quis para mim já não há. Sempre por doer mais, e já nem isso eu posso mudar. Diz-me se vais ou não vais, nem sei se ligo ou deixo passar. Eu espero que seja o tempo a curar, que já nem isso eu posso mudar.
O tempo que passou por mim fez calar a minha voz. Foi contigo que aprendi o que é amar alguém a sós. Sonhos que desperdicei, as canções que eu não cantei por ficar. Nada é nos une, só nos mantém. E tudo muda, nós mudamos também. Talvez o amor seja assim, mas tudo o que eu quis para mim já não há. Onde vais? Que se eu fico daqui, tu não sais. Vai acabar sempre por doer mais, e já nem isso eu posso mudar. Se ligo ou deixo passar, espero que seja o tempo a curar, que já nem isso eu posso mudar. Acorda-me quando acabar.
Mas se esta canção foi feita para ti,
sportif sur Radio Alpha, c'est tous les samedis avec Tony. Et pour ceux qui le connaissent, il va parler du foot en premier. Ça, ça veut dire que t'es malade.
C'est pas moi, c'est le calendrier qui fait des choses comme ça.
Évidemment.
On attaque ce tour de l'actualité par le match du week-end entre Benfica et Porto. Et ça peut déjà être le match du titre. Si Porto ne perd pas, il sera champion sur la pelouse du Benfica. Antonin, un petit mot là-dessus.
C'est prêt pour ce soir.
C'est pas vraiment le soir, c'est à 19h, mais bon, ça c'est du détail. Benfica, là, les filles.
Moi, je dis rien.
Écoute, non, moi je suis neutre, tu sais, j'ai un métier.
Évidemment.
peux pas donner mon avis. Hein.
Évidemment.
Moi aussi alors, moi aussi.
Non, toi tu peux, toi tu peux. Tu es chroniqueuse, toi.
T'es habillée en rouge.
Ah, j'ai même pas fait exprès, mais
décidément.
J'ai totalement fait exprès, c'était pour le match.
Évidemment.
Allez, Benfica, force, force, force.
Parce que du coup, si Porto ne perd pas, il sera champion sur la pelouse de Benfica, à quelques kilomètres du stade du Sporting, qui est deuxième du championnat. Du côté du football féminin, l'UEFA a annoncé en début de semaine une série de sanctions à l'encontre de la Russie pour la saison à venir, dont une disqualification de l'Euro 2022 féminin. Et si je vous en parle, c'est parce que la place des Russes a été récupérée par les joueuses portugaises, qui s'étaient inclinées face à la Russie en barrage. Mais du coup, vu que la Russie est éliminée, c'est le Portugal qui est repêché. Et on connaît déjà le groupe. Avec le Portugal, il y aura les Pays-Bas, la Suède et la Suisse. Donc je vous viendrai évidemment au courant de ça dans l'émission.
Qu'est-ce que tu en penses?
Bah, il faut y croire jusqu'au bout de toute façon.
Okay.
Et si jamais on n'y croit pas, on fait semblant d'y croire.
Il n'y a
aucune raison.
C'est fake it until you make it.
Hein?
Fake it until you make it.
Voilà, exactement.
Pour ça.
On parlait du match du titre il y a peu entre Porto et Benfica, mais c'est aussi le cas du côté du volleyball entre Benfica, toujours, et le Sporting. Mais cette fois-ci, c'est l'avantage aux Ekranach qui peuvent remporter le titre en cas de succès. Donc bon, cette fois-ci, les filles, je pense que ça devrait être un peu mieux pour vous.
Contre Sporting, c'est tout de suite plus facile. Hein.
J'en parlerai pas. Par contre, j'en parlais lors de la présente émission. En ce moment même se joue l'Euro de judo à Sofia en Bulgarie. Et la surprise générale, Georges Fonseca, qui était jusque-là invaincu sur la saison, a été éliminé de l'Euro. Et si, c'est dramatique.
Je suis très déçu. Un peu.
Mais il reste encore 6 jours de compétition, donc je vous ferai un récap complet la semaine prochaine, bien entendu.
Allez, tu nous tiens au courant. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. On s'écoute Intermanciel de Cucaruzeta, une musique choisie par un de nos abonnés sur Instagram, avant de passer à l'échange de la semaine. Sur Termstadt 2.1. Alors, avant de vous partager ce qui m'a marqué cette semaine, est-ce que vous avez une information lusophone ou non qui a retenu votre attention cette semaine?
Du coup, j'ai vu les premiers play pour la meilleure chanson Il y avait plein d'artistes, il y avait Anne Moura qui a gagné un prix aussi, en plus de Parabéné, voilà. Donc c'est ce que j'ai retenu cette semaine.
Ce que tu as retenu. Alors moi j'ai trois infos que j'ai retenues. Alors chaque année a lieu le festival Rio Rock à Toulouse. Et cette année, le Portugal est à l'honneur. C'est le pays en vedette dans le cadre de la saison France-Portugal 2022. Donc cette année, le festival aura lieu le 15 et 18 juin et comprend la représentation de plus d'une dizaine de lusophones et de portugais à Toulouse. La deuxième info qui m'a marquée, alors c'est le Met Gala. Est-ce que vous avez suivi un petit peu le Met Gala
de 2022 ? J'ai vite fait les outfits des gens qui étaient présents.
Ouais, moi aussi. T'en as pensé quoi ? Il y a Kim Kardashian qui avait la robe de Marilyn Monroe.
Ah ouais.
Vous avez pas vu?
Elle a eu un peu de mal à rentrer dedans.
Oui, on m'a dit, elle a dû sur un régime.
Elle était
dedans.
Tout, ouais. Ouais. Non, la aussi. Merveilleuse Blake Lively.
Exact.
Habillée en Versace, qui était très belle.
Très très belle. Et toi, Tony, t'as une tenue qui t'a marquée?
Pas spécialement, mais du bon et du moins bon.
Moi, Stromae, il m'a quand même marqué un petit peu. Hein.
Ouais.
Je crois pas l'avoir vu.
Avec son costume.
C'est
du Stromae tout craché.
Voilà, c'est du Stromae.
Et c'est du recyclé, non? Apparemment, il avait déjà porté cette tenue.
Et Billie Eilish aussi, c'était des vêtements qui étaient faits avec des matières recyclées, j'ai vu. Mais moi, j'ai lu plein d'articles, hein, mais c'est parce que je dois améliorer mon anglais.
Je vais parler, moi, de la portugaise qui était présente, Sara Sampaio. La mannequin portugaise donc a été présente pour ce gala. Elle portait une longue robe dorée signée de la marque Michael Kors, pardon, et des bijoux Messica. Donc voilà, très beau look. Je vous laisse aller regarder sur internet et on échangera après sur ce look. Et pour finir, je vais vous parler du monastère d'Abatal. Lely, vous connaissez un petit peu.
Bien sûr.
Vous connaissez Lely?
Lely, c'est vers chez nous, ça. C'est le centre.
Eh bien, le monastère d'Abatal, il est fermé le 19 et 20 mai. C'est rare qu'il soit fermé.
Mais pourquoi ?
C'est très rare.
Dis-nous
tout. Mais pourquoi ? Il va accueillir des séances de tournage du film Damsel, donc une production Netflix, qui passera également par Toumal et Soutel.
Trop classe.
Génial. Ouais, c'est vraiment la classe. Et d'après ce que j'ai vu, donc, ce tournage-là va permettre d'attirer justement la scène hollywoodienne pour venir faire plus de films au Portugal.
Très bon choix de destination, hein, franchement.
On va tous finir là-bas. Tout
très tout beau ça. Pays.
On valide en tout cas. Et après cet échange-là, je vais vous proposer un petit jeu, le jeu de la semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler et vous challenger sur les similitudes entre le Portugal et le Japon.
Oula.
Là, ça, c'est pour Antonin, ça.
On va loin, là.
Et ouais, on va très loin.
Antonin, le fan du Japon, là.
Et sur Termstadt, j'ai donné quelques exemples, comme la tempura. Il y a quelques semaines, Antonin a parlé de Nagasaki, une ville japonaise au repère portugais. Alors, j'en profite pour revenir sur la tempura. Okay. Alors, Antonin, je sais que t'es un pro, là. Je sens que t'es prêt.
Il fallait manger littéralement il y a deux fois. Je l'ai fait moi-même. Enfin,
voilà, en portugais, c'est un plat japonais. Voilà. Tout va bien.
C'était un plat. Mais c'était un plat portugais. C'est un plat portugais, la tempura. Donc, ce plat a été découvert parce que les Portugais sont arrivés au Japon. Parce qu'au Japon, on frit rarement le poisson. Donc, c'est plus une tendance voilà, des Portugais. Et on appelle ça au Speixing de Horte. Dans un restaurant au Portugal.
Exactement.
Prochaine question. Quels ont été les premiers Européens à arriver au Japon?
Bah, du coup, c'est un peu dur de dire le contraire.
C'est un peu dur, Antonin, là.
Ah là, pourquoi j'ai l'impression que c'est plus une discussion entre toi et moi, du coup?
Ouais, c'est vrai.
Alors, on a les Espagnols, les
nous,
Portugais,
laisse, hein.
Ou les Brésiliens.
Bah, du coup, les Brésiliens sont les pas européens, du coup. Donc, c'est un peu
moi, je pense que c'est les Luxembourgeois.
Ah ouais, moi, je voulais parier sur la Roumanie.
J'ai fait oublier Luxembourg, non, là. Merci de me rappeler.
Eh bien, c'est les Portugais au XVIe siècle.
Quelle surprise,
quel suspense. Les premiers Européens à débarquer sur les terres japonaises. Pour l'instant, c'est simple parce que c'est le début juin.
Attends, mais t'as dit les Brésiliens alors que t'avais demandé les Européens.
C'est un piège, parce que je parlais de la lusophonie. C'est un piège.
Faut suivre.
Mais faut suivre. Alors, comment se nomme l'échange commercial qu'il y a eu entre le Japon et le Portugal?
Japo-Tougal ou un truc comme ça.
Non, pas tout à fait. Alors, je vous donne des propositions. On a le Tiao, le Namban ou la Sarta.
C'est le Tiao, c'est joli.
Parce que le Namban, c'est comme ça qu'ils appelaient les Européens.
Antoine, il a révisé. C'est le Namban.
Mais il était au courant de la chronique.
Mais il a préparé Nagasaki, c'est pour ça.
Il y a deux semaines, j'ai fait un post là-dessus sur Instagram, que vous pouvez évidemment aller voir.
Sur Instagram de Temstad, pas sur le site.
Et donc, l'échange commercial s'appelait le Namban.
D'accord.
Et ce commerce a été initié par le roi du Portugal, Jean III.
Okay. Le Jean.
Exactement. Et donc, Antonin, il y a quelques semaines, comme tu viens de nous le dire, tu nous présentais Nagasaki. Alors, à votre avis, cette ville de Nagasaki, elle est devenue au fil du temps. Une porte d'entrée pour les prisonniers portugais, une porte d'entrée de la religion catholique ou une porte d'entrée pour l'armement portugais.
Antonin, dis-nous.
Oui, laisse-les répondre parce que sinon c'est pas drôle.
Les pauvres,
bah les trois c'est intéressant, tu dis je sais pas, l'armement, pourquoi? Non? Une porte d'entrée, mais vers le Japon.
Porte d'entrée vers le Japon.
Bah, religion catholique, alors.
Moi, j'aurais dit ça aussi.
Les prisonniers portugais.
Les prisonniers, je pense pas.
La religion catholique et l'armement.
Moi, j'aurais dit la religion, vu que c'est pas du tout...
Vas-y, Antonin, dis-nous.
Bah, c'était la religion. Parce que au bout d'un moment, je crois que c'est 50 ans après, il y a eu un édit pour interdire la religion catholique. Et du coup, il y a beaucoup de problèmes là-bas.
C'est triste.
Tout ça pour ça.
Et aujourd'hui, Nagasaki, c'est la plus grande ville chrétienne au Japon.
Ok.
Allez, c'est parti pour la prochaine question. Donc, au fil du temps, les Japonais ont instauré un pacte avec le Portugal, fermé leurs portes ou envoyé des civils sur les terres lusophones.
Je vais répondre à chaque fois.
Bah, ils ont envoyé des Japonais.
Alors, fermé leurs portes. Tony, Julie,
ils ont tout fermé.
Mais ils ont envoyé des Japonais. Ah, sur les terres lusophones, il y a beaucoup de Japonais au Brésil. Hein.
Oui, il y en a pas mal.
C'est vrai, c'est vrai. Enfin,
j'en
connais
pas
au Brésil, mais...
Ah, c'est ça.
Non.
Ah, j'aurais dit la première.
Ils ont fermé.
Antonin, t'as la réponse?
Je suis pas sûr de celle-là, mais je crois qu'ils ont fermé.
Ils ont fermé leurs portes, justement.
C'est logique.
D'ailleurs, aux Européens, suite à la politique de Tokugawa.
Mais ils ont interdit le christianisme, donc c'était logique qu'ils ferment.
Exactement. Et c'est donc la fin du Nanban qui a été marquée. D'ailleurs, les chrétiens convertis vont persécuter... Et le catholicisme, interdit à la fin du XVIe siècle.
C'est ça. Ils ont été obligés de se réfugier sur plein d'îles. Il y a beaucoup de récits là-dessus, des restes de monastères dans les îles, d'hôtels là-dedans. Et c'est très beau à voir dans les îles au nord de Kyugyu, je crois.
Il y en a pas mal. Et pour finir, quelques questions sur les similitudes entre la langue portugaise et japonaise.
Ouais, tu vas un peu loin là quand même.
À la limite, tu m'aurais dit l'arabe et le portugais, il y a des trucs à trouver.
Mais là, il y en a pas mal quand même.
C'est facile justement, on connaît. Là, alors vas-y, on t'écoute.
Faut aller plus loin. Et c'est assez étonnant. Alors j'ai quelques exemples pour vous. Par exemple, bottom. Est-ce que vous avez une idée?
Un bouton.
Est-ce que ça signifie en portugais? Un bouton.
Ah oui,
un bouton. Voilà.
C'est bottom en japonais?
Bottom.
Ah ouais.
Alors, le prochain mot, c'est le mantou.
Une couverture?
Non.
Mais il faut pas avoir bon partout là, sinon on peut pas répondre en fait.
Un manteau.
Ouais. C'est un manteau.
Mais en fait, c'est des similitudes avec le français.
Bah, on pense à mante.
Bah oui, c'est ça.
C'est vrai. C'est vrai.
Similitude avec le français, pas avec le portugais.
Cap.
En fait. Bah, la cape, une cape.
Une cape imperméable. Sabato.
Un bateau.
Ah non, ça c'est du français.
Bah, samedi.
C'est du japonais. Hein.
Samedi, du coup.
J'ai pas l'accent japonais, mais.
Samedi?
Samedi, du coup, ouais.
Samedi.
Ouais, bah voilà.
Sabato.
Ah, c'est drôle.
Et alors, il en reste deux, c'est simple. Hein. Pan.
Bah, le pain.
Bah, ouais.
Le pain, c'est le pain. Et le dernier, c'est kopu.
Le verre.
C'est s'écrit avec un K. Voilà.
Ah ouais, mais c'est génial, j'ai appris un truc là. Je vais rentrer, je parlerai japonais, quoi, ça y est.
Mais il va y en avoir encore plein d'autres, je pense, hein, du coup.
Il y en a plein d'autres, bon, je peux pas vous les citer. Hein.
Bah ouais, bien sûr, mais.
Mais on a plusieurs similitudes, hein, même au niveau de la culture, on retrouve plusieurs traces encore des Portugais aujourd'hui sur les terres japonaises.
Il y a même un moment où on pensait que arigato, du coup, le mot pour dire merci, venait du portugais obligado. Mais en fait, non, ça a été démenti parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu.
Non, c'est faux, apparemment.
Des preuves du contraire.
Moi, je vais rajouter le japonais dans mon CV, moi, c'est bon.
Let's go. Et après tous ces échanges, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a fêté la journée mondiale de la langue portugaise cette semaine. Et Julie va nous en dire plus cette fois-ci d'ailleurs en portugais au moment du CBHQ. Alors on revient juste après. Radio Alpha. Termstad, deixa-me um rádio alfa e como disse há pouco, hoje no CBHQ a Julie vai nos falar sobre o dia da língua portuguesa.
Exatamente, mas eu tenho perguntas para vocês, não sou só eu que vou falar. Tem uma ideia de porquê que foi criado este dia? Porquê que é celebrado?
Porque é uma das...
Diz tu. Se a paz e a união na Europa.
Primeiro porque um dos idiomas mais falados do mundo.
Pois, é exatamente isso. Eu vou citar o post que fez a Rádio Alfa no Instagram. Rádio Alfa, tracinho do baixo, Alfa, no Instagram. A Rádio, tracinho do baixo, Alfa, já perceberam? O objetivo do Dia Mundial da Língua Portuguesa é de promover a preservação da língua, civilização e cultura no mundo. pois o português é falado por mais de 265 milhões de pessoas e é a língua mais usada no hemisfério sul. A data de 5 de maio foi oficialmente estabelecida em 2009.
9? 9.
Mas sabem porquê? Se vos digo CPLP, sabem o que é CPLP?
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Exato, Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa.
São 7. Boa, 7?
7 países, acho eu.
Não.
9
países. Exato.
Quanto é que são?
É pá, deixa-me acabar. A CPLP.
Disseste, não, tu, não só tu é que queres falar, agora
é uma organização intergovernamental, parceira oficial da Unesco desde 2000, que reúne os povos que têm a língua portuguesa como um dos fundamentos da sua identidade específica para celebrar a língua portuguesa e as culturas lusófonas. E são 9 países. Vão citá-los. Então.
Portugal.
Boa.
Brasil.
Moçambique. Angola.
Cabo Verde. Guiné-Bissau. Equatorial.
Macau não.
Timor-Leste, São Tomé e Príncipe.
Eu já tenho todos.
Elisa, tudo.
Já está.
Conhecer de cor.
Macau não é um país.
Não.
Cuidado. E sabem como é que é celebrado este dia em França? Viram algo?
Sim, vi na Unesco, não tinha muito.
Vi a Bibiana Daniel, também que estava lá. Exato. Cap Majlon estava lá. Houve, não sei se sabias, Letícia, houve na quinta-feira uma cerimónia no 6º da Unesco em Paris, que era no final da tarde, acho que era às 17 até 20, e a Cap Majlon estava presente, claro, 2 horas e meia de cerimónia, durante a qual vários artistas e convidados atuaram no palco para celebrar a língua portuguesa. Muito bonito.
Muito bem.
Também serviu para inaugurar uma exposição dedicada ao artista Arthur Cruzeiro Seixas, que se encontra na Sala Miró da Unesco até ao dia 14 de maio. Por isso, se tiveram a oportunidade, vão lá e mandam as fotos para a nossa conta Instagram, está bem? E agora, eu tenho umas perguntinhas para vocês. Porque sabem que, em função da região de Portugal, algumas palavras podem ser diferentes. O que eu acho muito interessante. Já tivemos o exemplo com carcaça
e
papo seco. Não vamos falar do pão bicho bom, não, está bem?
É pão bicho para mim.
Isso não existe, está bem? Como é que tu dizes? Carcaça ou papo seco?
Papo seco.
Pronto, lá está.
Papo seco.
E o pão bicho?
Não é a mesma coisa, é outro pão. Mas no mundo lusófono é ainda mais importante essa diferença. Então, eu contei algumas palavras que são diferentes do português de Portugal e eu queria que vocês tentassem adivinhar o sentido dessa palavra em português de Portugal. Vamos começar com palavras do Brasil, está bem? O que quer dizer dar pitaco? É português do Nordeste do Brasil. Dar pitaco.
Dar de comer?
Não é comer.
Dar.
Por exemplo, eu fui ver um filme no cinema e eu vou dar pitaco depois.
Comentar?
É dar a sua opinião. Exato.
Ok.
Um que é uma leva. É português da região sul do Brasil, porque o Brasil também é muito grande, um país enorme, por isso há ainda mais diferenças.
É uma leva?
Maleva.
Ok, maleva.
Só uma palavra. Por exemplo, eu posso dizer que o Toninho é uma leva. E vocês sabem que eu sou muito má com ele, por isso.
Ok, é tipo.
É um sentido pejorativo.
Maleva?
Coitado, Toninho.
É feio?
Não.
Uma melga?
É um bandido.
Ah.
Ok. Sabem o que é uma bica no Brasil? Eu acho que isso é todo o Brasil. Se vão para o café e pedem uma bica. Exato, é um expresso. E agora, eu sei que tu sabes, não. Mas, se eu vou para o Brasil e que eu peço durex, o que é que é?
Água.
Durex.
Pode ser água?
Não, é fita cola. Por isso, se algum brasileiro vos pedir durex, não é para fazer coisas com vocês, tá, mãe? É só fita cola.
Não, eu conhecia outras palavras que tive que descobrir lá.
É como scotch em francês, afinal.
Exato.
Bicha? Banheiro?
Ainda tenho mais. Mas agora vamos passar para o mundo lusófono inteiro, mais para a África. Para Angola, o que é uma geleira?
Geleira? Tipo,
vá, simples.
Um frigorífico?
Exato. Em brasileiro é refrigerador. E aliás, sabem como é que a minha avó diz frigorífico?
Figurífico.
Fibrisco.
Fibrisco.
Okay. O que é, no Moçambique, um cabrito? É um bocado difícil essa.
Não é um cabrito.
Não é um cabrito.
Um bebê?
Não. É uma pessoa má. É um corrupto.
Oh.
Não tem nada a ver.
E como é que dizem cabrito?
Epá, eu também eu tentei buscar, mas não encontrei. Acho que é a mesma palavra.
Ok.
E agora, essa também é engraçada. Porcos em Moçambique. O que é o sentido? Epá, se eu vou dizer, por exemplo, para o 1 de novembro, eu vou visitar os meus porcos.
Tudo bom?
Os antepassados mortos.
Ah!
É estranho, não acham?
É estranho. Coitados.
Agora, não sei se vocês conheciam isso, eu conhecia. O machimbumbo na Angola. O que é que é? Se eu vou tomar o machimbumbo.
Ah, isso é que
não.
Yes.
Café, não.
O, no Brasil é ônibus.
Então é um transporte.
É o autocarro. É. Exato. Eu tenho mais outras, esperam. Está quase a acabar. Garina em Angola.
Gasolina.
Garina em Brasil. É, no Brasil, vocês vão encontrar logo. É uma moça.
Então, uma mulher, uma
rapariga.
Garina.
É engraçado, não acham?
É,
agora,
isso
também é parecido, acho, com alguns sítios em Portugal. Mata-bicho.
Mata-moscas?
Não.
Mata-bicho.
É.
Mata-bicho.
Café da manhã no Brasil.
Ah, pequeno almoço.
É pequeno almoço.
Mata-bicho.
Mata-bicho. Mas eu vi que em Portugal também diz mata-bicho.
Nunca ouvi.
Nunca ouvi também.
É também não. Bolacha, em Angola, não é? A bolacha que se come.
Bolacha.
Isso é bué, não sei onde é que foram buscar isso. Bolacha, para mim, é o que se come.
Mas come-se ou não?
Não. Não.
Tens um pouco de contexto? Um
bicho?
É, quando estás de carro, vais tomar a bolacha.
Na sortie do todo?
Não.
A bolacha.
No Brasil é rotatória.
Rompon?
Ah.
Yeah, a rotunda.
A rotunda.
A rotunda.
Uma bolacha?
Yeah, okay. Uma bolacha.
É redondo.
Tive um acidente na bolacha.
Exato.
Que estranho.
Essa é simples. Xiunga. Em Angola ainda.
É simples?
Xiunga.
Xiunga.
Pensa no inglês, por exemplo.
Xiunga.
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 Ok, eu disse mal. Culpa é minha. Exato. É chiclete. Chiclete no Brasil. Chiclete. E para acabar, musique. Em Angola. Musique, não sei se.
Um vinho?
Não. É, musique é um lugar onde pessoas podem viver. Podem, não deveriam, mas vivem.
Na rua?
Podem, não deveriam.
No Brasil é favela.
Ah, então é.
Em português é bairro de lata.
Musique.
Musique. Também é rua.
Exato. É. Pois é, é verdade. Pronto, agora já conhecem muitas palavras. E agora podem dizer que vão tomar a bolacha quando vão para a rotunda.
É isso.
Engraçado, não é?
Vou tomar também o meu mata-mosca.
Um mata-bicho.
Mata-mosca.
Vais tomar um mata-bicho com a garina. Com uma garina.
E é beber um bico. É bico. Café.
É bica.
Bica.
Eu acho que com tantas informações já sabemos tudo sobre o Dia da Língua Portuguesa.
Pois, acho que sim.
Tudo, é?
E mais do que isso, porque já aprenderam muitas palavras lusófonas agora.
E agora o mais importante é lembrar-se da
E depois mando-vos tudo, está bem? Eu tenho o meu documento e eu mando.
Está certo, obrigada. Mas será que vamos conhecer tudo sobre o artista que vai apresentar o Tony esta semana? Rio d'Água, Ciro, e voltamos já.
Sempre ouvi dizer, só quem anda cai. Aprendi a perder. Lavo as rugas da dor que o tempo deixou, marcas de quem eu sou. E aprendi que do chão também vejo a cor do céu. E hoje sou como um rio de água. A vida não para de correr. E lavo a alma, afogo a mágoa que tiver. Como um rio de água, tu estendes a mão para eu beber. Um rio de água, um rio de água.
Já não volto a quem fui, eu aceito em paz. Na mas carrego em mim o que me desfaz e as flores que um dia reguei. Vias a crescer e deixei o tempo merecer e sem dizer as levou de mim.
Como um rio de água, a vida que o tempo não
vou daqui, vou de mim. Sempre ouvi dizer: só quem anda cai. Aprendi a perder. Lavo as rugas da dor que o tempo deixou. Marcas de quem eu sou. E aprendi que do chão também vejo a cor do céu.
Sur Radio Alpha, bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Termstadt 2.1 et merci d'être avec nous sur Radio Alpha. Laetitia Simoege est avec nous aujourd'hui.
Rebonjour.
Rebonjour, l'interview c'est dans quelques instants, mais avant on va parler de l'artiste de la semaine avec Tony. Mais avant tout cela, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Avec Cap Magellan, on vous offre 2 places pour le Braga Dancefloor. Alors, le festival a lieu fin juillet, donc si vous voulez participer, envoyez un message sur WhatsApp de Radio Alpha. Donc, je vous passe le numéro, est-ce que vous avez de quoi noter? J'espère que vous êtes prêts. Alors, c'est le 06 62 10 98 60, donc n'hésitez pas à envoyer un message pour tenter de remporter vos places. Et maintenant, Tony, on reste branché musique avec toi. Tu vas nous parler aujourd'hui d'une star du fado, il me semble.
C'est pas une star, c'est la star du fado. Parce qu'elle était de ceux que l'on ne pouvait qu'écouter quand on les entendait. Ses notes sont gravées dans nos oreilles, son visage dans les pavés lisboètes, son nom dans nos cœurs. Elle était la reine d'un royaume populaire. Amalia Rodriguez était la reine du fado. Place au portrait de cette chanteuse d'exception, mais avant ça, musique.
Waouh.
Uma gaivota viesse trazer-me o céu de Lisboa. No desenho que fizesse neste céu onde olhar é uma asa que não voa, que esmorece e cai no mar.
La petite Amalia est venue au monde dans une famille pauvre et stricte. Très tôt, comme le voulait la coutume à cette époque, elle commence à travailler pour aider sa grand-mère à subvenir aux besoins familiaux. Et j'ai bien dit sa grand-mère, car entre ses 2 et 14 ans, ses parents retournent à Fundão dans le district de Castelo
Branco. Très bon choix de destination, si je peux me permettre. Il y a un très beau marché là-bas.
Tu peux te permettre. Et il la laisse donc à Avó, et à l'âge de 15 ans, elle part vendre des fruits dans la zone portuaire de Lisbonne avec sa sœur Céleste. Et c'est un passage de sa vie qui va être déterminant pour la suite de sa vie, mais surtout de sa carrière, parce qu'elle y fait plusieurs rencontres. D'abord, celle de son premier mari, avec qui elle a vécu une idylle de 2 ans. Problème, la séparation est compliquée, et Amaury Rodrigue fait sa 3e tentative de suicide, qui fort heureusement fut un échec. Mais elle a surtout fait la rencontre du public, et elle se fait repérer et conseiller auprès du directeur de la maison du Fado. Il lui propose une audition qui fut évidemment un succès, mais sa famille la force à décliner la proposition qui lui était faite. Problème d'époque dans ces années-là, hein. La chanson était vue comme un loisir et une carrière professionnelle était beaucoup moins accessible qu'aujourd'hui. Sauf que quand on a du talent, on a du talent et il faut le partager. Chose qu'Amaury Rodrigue a commencé à faire en 1939 en rejoignant une des nombreuses maisons du Fado de Lisbonne. Est-ce que vous aimez le Fado autour de la table?
Oui. Oh, franchement, ça me fait pas du tout pleurer.
Je vais pas dire, mais ouais, Julie, à chaque fois avec les vidéos du Fado, il y a une petite larme qui coule. Hein.
Ah ouais.
Mais arrête,
j'ai des petits frissons là. T'es obligé de tout ressentir, de tout vivre. Là, c'est magnifique.
Surtout quand tu vois en face de toi, c'est vraiment une expérience incroyable. Plus.
Moi, j'ai été choquée la première fois que j'en ai entendu parce que mon père, il m'avait toujours dit, un vrai Portugais, il a des frissons, voire il pleure. J'avais dit, c'est faux, t'es un menteur.
Bah, c'est pas parce que t'en as pas que t'es un faux portugais. Hein.
Première fois que j'ai entendu du Fado, du vrai Fado en face de moi, j'ai commencé à pleurer. Ma mère, elle me regarde, elle me fait, mais tu pleures? Je fais, non. Et je sens là, je fais, ah bah si. Voilà.
Bon, c'est pas en face de toi, mais on écoute quand même Fado portugais. Amaury Rodrigue ne tarde pas à devenir une vedette du Fado au Portugal et finit par s'exporter, d'abord en Espagne, ensuite au Brésil, puis en France. Elle connaît le succès après aussi en Angola, aux États-Unis, bref. Quelques années après, Salazar est déchu, et là c'est le début du passage à vide de sa carrière parce qu'elle est accusée d'avoir servi la dictature. Et elle s'est alors éclipsée de la scène, mais renoue très vite avec le succès dès son retour, et oui, c'est là aussi qu'on reconnaît les très très grands. Au cours de sa vie, elle a reçu pléthore de distinctions individuelles, dont la Légion d'honneur, ça je savais pas, qu'elle a reçu des mains du président de la République française François Mitterrand en 1991.
Mais tu sais pourquoi?
Rien que ça. Mais tu vas me le dire?
Bah non, je sais pas.
Ah, non, je sais pas.
Une vraie question.
Et non.
Mais pour parce qu'elle chante trop bien, quoi.
Tu sais qu'on peut visiter sa maison.
Exactement,
à Lisbonne,
ouais. La maison où elle a vécu là. Tout en partie de sa vie.
Je l'ai visité. Hein.
Mais on en avait parlé d'ailleurs en début d'année.
On parlait de Lisbonne.
Lisbonne, exactement. Ouais. Son décès en 1999 marque tout le pays. Un deuil national de 3 jours est décrété. Hein. Et pour l'accompagner dans son dernier voyage dans les rues de Lisbonne, il était des centaines de milliers à l'escorter. Et si vous voulez vous replonger dans son univers, le 17 juin prochain, au Palais des Congrès de Paris, vous pouvez assister au spectacle Emma la Maria en partenariat avec Radio Off et Cap Magellan.
Et on se quitte avec une musique mythique, une musique qu'on adore ici, en ma case portugaise de Amaury. On revient juste après avec la boîte mystère d'Antonin. Et suivrons ensuite l'interview avec Laetitia.
Uma casa portuguesa fica bem, pão e vinho sobre a mesa. E se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, cheirinho alecrim, cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim. No São José das Azulejos, mais o sol da primavera, uma promessa de portuguesa, com certeza. Mas com certeza uma casa portuguesa, no conforto pobrezinho do meu lar, à fartura de carinho, e a cortina da janela o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco para o coxinho para alegrar uma existência singela. É só amor, pão e vinho, o caldo verde, o verdinho, a fumegar na tigela. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim. São José das Leixos, mais o sol da primavera.
Sur Radio Orphée, c'est la boîte mystère avec Antonin. Dis-nous ce qui nous attend aujourd'hui.
Exactement, la boîte mystère, c'est chaque semaine un petit jeu, un truc d'impro différent à chaque fois. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est. Est-ce que tu connais les règles du petit bac? Un petit jeu qu'on faisait peut-être.
Ah oui, le baccalauréat. Moi, je l'ai appelé le baccalauréat.
Oui, voilà.
Non, mais c'est pas le vrai, c'est pour ça que c'est le petit.
Ah, pardon.
Exactement.
Pardon.
Après, je peux faire passer ton bac.
Le concept est le même.
Non, c'est pas le même que le bac. Hein.
Mais c'est que le jeu, le bac, si, c'est pareil.
On l'a pas passé, nous, je
veux dire. Ouais, c'est vrai, nous, on l'a pas passé, nous.
Vous êtes si jeune. Et je suis si vieille, du coup.
Mais non, je m'en vais.
On va se rattraper, on va faire le petit bac. Donc, je vais vous donner une lettre. Et votre but, ça va être de trouver. Donc, on va faire dans l'ordre. On va faire d'abord Tony, puis Julie, puis Léa, puis toi. Puis
et moi, j'ai une question. Pourquoi toi, tu jouerais pas?
Bah, je peux essayer de jouer avec vous, mais oui, je peux essayer.
C'est en franco-portugais ou pas?
Parce qu'il connaît son jeu.
Mais au pire,
oui, mais alors, quoi, il connaît pas forcément les mots.
Non, sinon, ce qu'on fait, c'est que tu donnes une lettre.
J'ai déjà pensé.
On fait un tour de table, après, toi, tu donnes une lettre sur le même thème, mais il choisit.
Ah ouais, pas mal.
Ouais, mais après, il faut trouver des réponses rapides, quoi.
Ok, ouais.
La rose arrosée.
On va voir si on arrive.
Juste, c'est les réponses en franco-portugais ou
franco-portugais. Évidemment, c'est quelque chose qui tient du monde lusophone, c'est toujours un plaisir de les répondre en plus, même si on compte pas vraiment les points.
C'est là, mais il y a des noms, c'est quoi? C'est prénom et nom pareil?
Ouais.
Okay. Quand on est d'accord avant, qu'on vient pas dire, ouais, tu triches.
Parfait.
Tu vois, il commence à setup bien les règles, tout ça.
Allez.
Donc, le premier thème, c'est un nom ou un prénom typique portugais. Et ça va être en lettre J, Tony, pour toi.
João.
Julie.
Voilà.
Julie, c'est bon.
Voilà, je préfère.
Julia. José.
Ah.
J'allais dire ça. Julio.
Bah oui,
oui, c'est vrai. Et bien, du coup, on va faire
un deuxième. Moi, j'en ai encore.
Ah, si tu veux, vas-y, donne-moi.
Junior.
Junior,
c'est pas portugais.
Juana, c'est du si. Si, en Brésil, t'as
pas. Et moi, j'en connais plein des juniors au Portugal.
Joel.
Joel.
Mais du coup, toujours dans la même lettre, le J, on va faire plutôt cette fois-ci un.
Très belle lettre au passage.
Évidemment, elle dit ça, mais c'est sa lettre. Hein. Voilà. Un titre de musique, Lizzo, et on commence par toi, Laetitia.
Par un J.
Ouais.
Hein
la musique, pas le chanteur.
J'avoue que là, elle est dure.
Maintenant, là, c'est dur. Hein.
En J, en plus, t'as pas pris le plus facile.
Tu veux pas répondre en premier,
on va prendre autre chose.
Ah,
plutôt,
il esquive.
Trop dur pour vous. Un objet commun qu'on peut trouver chez soi, dans sa chambre ou dans son salon, quelque part comme ça.
En J.
En jean? Non, je rigole. Non, on dit pas jean.
Non, mais tu peux dire en français, ça marche.
Ah oui, en jean, bah oui, on peut dire en français.
J'en ai un, me l'enlevez pas, s'il vous plaît.
Ma jarre.
Ouais.
Une jonquille dans la jarre.
Ou ma janelle.
Je la sors pas de ma poche tous les jours, mais bon, ok. Ça
t'as dit dans la chambre.
Non, mais bienvenue à toi. Et maintenant, pour finir en beauté, parce que du coup, Victor nous a souvent donné faim, un dessert portugais, mais cette fois-ci qui commence par un A. Parce que c'est la meilleure.
Et donc là, c'est moi qui commence, on est d'accord.
Évidemment, Tony.
J'ai mon rôle à roche d'os.
Amendoïche. Un dessert, mince.
Bébé, pini.
Ça ne te reste pas beaucoup de temps.
Rouge. Non, je passe mon tour.
C'est ce que t'en as.
Ah, c'est pas. Bah, j'en vois pas, non.
Mais écoutez, pour vous départager, Tony et Julie.
Ouais, ça va être d'être ça avec Amendoïne.
Le premier d'entre vous deux qui répond sur la lettre A sur une ville portugaise.
Un tiron.
Ah pardon, j'avais pas compris que c'était le premier qui répondait.
Je t'ai fait larguer par Tony. T'as gagné. Bravo Tony. Et on finit là-dessus pour la boîte mystère cette semaine. Merci à vous d'avoir participé.
Merci à toi. Mais moi, j'avais pas compris que c'était le premier qui devait répondre.
Il l'a dit. Hein.
Comprendre les règles fait partie de la question.
Mais moi, j'avais pas eu le temps de comprendre qu'il avait déjà répondu.
Non, mais elle comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps.
C'est ça, du coup,
on a fini le jeu.
C'est exactement ça. Elle me connaît trop bien.
Et pour te faire plaisir, Laetitia, on va écouter en mille.
Dédicace à toutes mes copines.
Com você na praia, num barco, num farol apagado, num rio abandonado em uma grande alta astral, lá em Hollywood, pra de tudo rolar, vendo estrelas caindo, vendo a noite passar, eu e você na Ilha do Sol, na ilha. Tira o pé do chão. E tudo começou há um tempo atrás.
L'interview sur Termstab 2.1, c'est tout de suite. Laetitia Simon, j'étais avec nous depuis 14h déjà. On va enfin savoir un peu plus sur toi, sur ton parcours journalistique, rédactrice, JRI, chroniqueuse. D'où vient cet amour pour le journalisme ?
Eh ben, en y repensant, je sais pas vraiment. J'ai pas de modèle, j'ai pas. Je pense que c'est. Voilà, j'ai grandi avec la télé. J'ai toujours voulu, de toute façon, être journaliste télé. Et puis surtout, au fil de mes études, en fait, je me suis passionnée pour ce métier au fil de mes études et puis au fil de mes expériences dans différentes entreprises.
C'est comme une vocation pour toi ?
Ah, je pense qu'il faut que ce soit une vocation. Quand tu veux faire ce métier, c'est absolument une vocation. Il faut que ça prenne au corps, il faut que ça tienne au corps pour faire tout ce qu'on fait, ouais.
Et donc tu suis des études de journalisme donc à la Sorbonne, ensuite tu poursuis avec un master au centre universitaire d'enseignement du journalisme de Strasbourg et tu enchaînes avec plusieurs stages. Alors on sait que dans ce métier-là, les débuts c'est pas facile. Comment ça s'est passé pour toi ?
Pour moi, ça a été assez vite, bizarrement, et tant mieux même. Je suis sortie d'école en 2011 et j'ai assez vite enchaîné parce que d'ailleurs, je parlais portugais. Je suis partie travailler pour une boîte de prod française qui était installée à São Paulo et j'ai vécu 3 mois là-bas et j'ai pu couvrir pas mal de reportages, d'événements. On a fait notamment la Copa América en Argentine. Donc ça, c'était en 2011. Donc
tu avais assez incroyable. Quel âge, c'est pas indiscret
J'avais quel âge ? 2011, j'avais 22.
Donc à 22 ans,
23.
C'est ton tour.
Ouais, j'arrive même plus à compter, mais oui, voilà, je sortais d'école. Et puis quand je suis rentrée 3 mois après, j'ai commencé à piger à iTélé, qui est aujourd'hui CNews. C'était très différent à l'époque. C'était
pas la même
mieux.
Chose.
Non, bah non. non, c'était super. Ça, ils m'ont donné ma chance assez rapidement. J'ai commencé à piger. Ensuite, j'ai signé des CDD. Et puis ensuite, voilà, ça a été assez vite.
Et lors de tes stages à l'étranger, généralement, comment sont accueillis les journalistes?
Bah assez bien, ça dépend sur quel terrain tu es envoyé, ça dépend ce que tu fais, mais c'est très différent des Français en fait. C'est une autre façon de voir les journalistes. T'as des pays comme au Brésil où je trouve qu'ils respectent beaucoup cette profession-là. Donc on est très bien accueillis, les gens parlent très favorablement face à une caméra, donc c'est plutôt agréable.
Donc c'est plutôt bien passé comme expérience pour toi.
Ah oui, complètement.
Le Brésil et par la suite, donc tu cumules les reportages. Qu'est-ce qui te plaît finalement dans ce format-là ?
C'est les rencontres. Je rencontre des gens différents absolument chaque jour en fait, parce que là je travaille sur le JT d'M6, donc on fait un voire deux sujets par jour et donc on rencontre des gens différents, on fait des sujets différents. Ça peut c'est de la politique, de l'économie, du social, de l'étranger. Mm-hmm. Donc on s'ennuie absolument pas.
T'as des sujets de prédilection un peu ?
Pas forcément. Bah j'aime vraiment tout et c'est justement ce qui me tient au quotidien, c'est de pouvoir faire plein de choses différentes à chaque fois. Dans notre rédaction, on est un peu spécialisé dans rien et spécialisé dans tout. Il faut tout savoir sur tout et t'intéresser à tout surtout et à tout le monde.
Et toi, tu t'es bien intéressé à tout puisque tu t'es intéressé aux zones de conflit, des zones difficiles pour les journalistes comme l'Afghanistan il y a quelques années, le Mali, la Malaisie, plus récemment l'Ukraine. D'ailleurs, on y reviendra dans un moment, mais où trouves-tu l'envie et cette force aussi de partir dans ces zones-là de conflit ?
Bah, c'est l'actualité. C'est quelque chose qu'on a en nous quand on est journaliste. Il se passe quelque chose de très fort, de très important dans le monde. On a envie d'y être, en fait.
C'est une nécessité pour toi ?
Ah, complètement, c'est une nécessité. Moi, j'ai 2 enfants très jeunes. À aucun moment, je me suis posé la question de... j'y vais ou j'y vais pas. C'est j'y vais. Je vais m'organiser, je vais y aller. Parce que c'est mon métier et c'est mon devoir même. Et heureusement qu'on y est allé et heureusement qu'on a pu informer et qu'on peut encore informer le monde sur ce qui se passe là-bas. C'est important.
Donc ta dernière expérience en Ukraine s'est déroulée quelque temps en arrière. Est-ce que c'était une évidence pour toi, comme tu l'as dit, de témoigner, de partir sur place sans te poser de questions Généralement, quand c'est des terrains compliqués comme celui-ci, comment vous faites pour arriver sur place ? Est-ce que vous avez du matériel à disposition ?
Ah oui, oui. C'est très intéressant comme question parce qu'on voit pas beaucoup les coulisses de comment on travaille. Et c'est toute une logistique hyper fastidieuse qui est mise en place là en l'occurrence pour arriver à Kiev, parce que c'est là qu'on est allé sur le dernier voyage. Donc le ciel aérien est fermé, donc il n'y a pas d'avion qui part. Donc on a dû arriver à Cracovie en Pologne, on a loué une voiture. tout ça avec 150 kilos de matériel à peu près, parce que on a deux caméras, on a un kit Mojo, c'est l'iPhone, parce qu'on filme aussi beaucoup l'iPhone. On a les gilets pare-balles qui pèsent à peu près 15 kilos. Voilà, on est trois personnes, plus un gilet pour le fixeur, c'est la personne sur place qui traduit, qui nous aide à travailler sur place. Donc voilà, beaucoup de miel, on a une voiture, donc on loue une voiture jusqu'à la frontière, on avait, je sais pas, 2 heures de route. On laisse la voiture à la frontière sur un parking, on l'a laissée là pendant 10 jours, et on va tracter tout, je dis bien tracter notre matériel à pied sur la frontière. Donc, ça craint pas à la frontière. C'est voilà, on a le flux de réfugiés qui arrive dans le sens inverse, donc c'est assez impressionnant de justement d'aller dans l'autre sens. En fait, on voit tous ces gens qui fuient la guerre et nous on y va. C'est symbolique de notre métier aussi. Et de l'autre côté, donc là on a quand même tracté notre matériel, on a passé les douanes, etc. Et de l'autre côté, on a notre fixeur qui nous attendait avec sa voiture. Et là, arrivée la deuxième partie très importante du voyage, puisqu'on avait 10h, 11h de route jusqu'à Kiev, sur des routes, sur des petites routes de campagne, parce que les grandes routes étaient soit coupées, soit il y avait les Russes qui occupaient justement ces zones-là, donc trop dangereux pour passer et de toute façon infranchissable. Donc, 2 jours complets pour arriver à Kiev.
Et donc vos missions sont définies à l'avance ou tout se passe au feeling une fois sur le terrain?
Quand on part là-bas, c'est absolument au feeling. Là, pour le coup, c'est vraiment au jour le jour. On est sur place. On entend, il se passe ça, on va aller voir. On appelle la rédaction, on vous propose ça. Est-ce que ça vous intéresse? Bah oui, de toute façon, ils prenaient tout. On était vraiment leurs yeux et leurs oreilles sur place. Donc, c'est super, parce que c'est vrai que c'est notre métier de montrer ce qu'il y a. Et ils nous disaient oui à tout, et tout était intéressant à raconter, toutes les histoires étaient intéressantes à entendre et à montrer, en fait.
Et en parlant donc de cette mission-là, tu as vu de tes propres yeux des preuves de crimes de guerre, notamment à Boutcha, où tu étais avec tes collègues. D'ailleurs, vous étiez sur place, les premiers sur place à découvrir ce massacre-là. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette découverte-là? C'est arrivé un peu par hasard?
Complètement, ça est arrivé complètement par hasard. On m'a souvent dit, dans tout au long de ma carrière, un bon journaliste, un journaliste qui a de la chance. Et je pense qu'on a eu de la chance. Alors, c'est horrible de le dire dans ce cadre-là, mais on a eu de la chance à ce moment-là, puisque on était en convoi militaire. On allait faire un autre reportage un peu plus au nord sur l'aéroport de Stomel, qui venait d'être libéré. Donc, c'était une prise hyper importante et un reportage très fort à tourner pour nous. Et pour arriver à Stomel, on passe par Boutcha. Boutcha, où d'abord on a découvert Irpin, les dégâts, c'est l'apocalypse vraiment. C'est un terme que j'aime pas utiliser dans les reportages, parce qu'on se dit c'est too much, et en fait c'est vraiment apocalyptique. C'est comme dans les films, j'avais jamais vu ça de ma vie, et pourtant j'ai couvert des conflits, mais là c'est vraiment
Mais psychologiquement,
incroyable.
Justement, comment vous faites pour tenir, tout simplement?
Je pense qu'on est déjà, le cerveau est préparé à ça. Vous savez, on a des psychologues après qui nous parlent quand on rentre. M6 notamment a mis ça en place, et d'autres rédactions aussi ont mis ça en place. C'est super pour le retour des journalistes. Et moi, la psychologue me disait, votre cerveau est préparé en partant là-bas. Vous savez que vous allez pas filmer des papillons et voilà. Oui. Donc on est prêt. Alors oui, c'est horrible. Oui, il y a des moments de sidération, notamment quand on découvre ces corps à Boutcha. C'est notre métier. On a un filtre, en fait. On se dit, il faut montrer ce qui se passe. Il faut être sûr de ce qu'on montre aussi et de ce qu'on raconte. Ça, c'est très important. C'est une grosse responsabilité qui est sur nos épaules, et je pense qu'on est porté aussi par ça, par cette pression du métier et de la profession, qui fait que on veut pas dire n'importe quoi, et finalement ça fait un filtre je sais pas comment vous expliquer. Moi aujourd'hui je me sens beaucoup bien, enfin beaucoup mieux, je veux dire. Oui. Depuis que je suis rentrée, évidemment il y a un moment où il y a un sas de décompression qui est nécessaire quand on rentre. Les premiers jours sont pas faciles, mais
T'as eu peur sur place ou pas?
Ouais, je pense qu'on est obligé d'avoir un peu peur. Mais on n'est pas. J'ai peur, mais je suis pas paniquée. Okay. Il y a une nuance entre les deux. T'as toujours peur. T'es jamais en sécurité.
C'est la guerre.
T'es à la guerre, donc tu sais pas ce qui peut tomber. Tu sais pas. Même si l'endroit où on était, nous Kiev, le centre était pas forcément dangereux, mais...
Justement, tu as toujours peur, et pour te reposer, pour vous reposer, comment vous faites? Parce qu'on sait actuellement que les habitants se réfugient dans le métro, dans les caves, vous...
Alors nous, dans le centre de Kiev, c'était plutôt calme, comme je vous le disais, on avait encore... les hôtels étaient ouverts, nous, on était dans un hôtel, alors il n'y avait pas de restauration, donc on se débrouillait pour faire à manger, pour acheter à manger, etc. Donc on pouvait être, entre guillemets, en sécurité, on était... Voilà, chacun avait sa chambre, etc. Après, c'est vrai qu'on dort pas bien, évidemment, parce qu'on est dans un pays en guerre, on entendait beaucoup de bombardements les premiers jours, c'était assez impressionnant, c'est comme un bruit d'orage permanent, il faut s'imaginer un truc qui tape sans cesse. C'est la première chose qui m'a surprise quand je suis sortie de la voiture pour rentrer dans l'hôtel. Je me suis dit, oh, ça nous prend vraiment, et alors que c'est à 30 km de là. Et voilà, la nuit c'est pareil, il y a des sirènes d'alerte pour qu'on aille se mettre à l'abri, parce qu'il y a des risques de bombardement, même s'il n'y en avait pas forcément dans le centre, mais voilà, pour que les gens se mettent à l'abri. Donc on dort pas sur nos deux oreilles. Non, c'est sûr qu'on est très fatigué quand on rentre.
Oui.
Non, on n'est jamais tranquille. On peut pas dormir sur un terrain de guerre.
Et tu as rencontré donc plusieurs civils, tu as récolté plusieurs témoignages. Quelles étaient leurs réactions vis-à-vis des journalistes étrangers? Est-ce que vous avez été bien accueillis?
Ah oui, toujours.
Comment ça se passe justement pour aller vers ces civils-là qui ont peur actuellement de l'ennemi, bien évidemment, mais aussi du terrain?
Ceux qui m'ont le plus marqué, parce qu'on a toujours eu, on a toujours accès à plein de civils, que ce soit à Kiev, etc. Mais il y avait deux vies différentes entre Kiev, qui était entre guillemets en sécurité, et tout le nord-ouest qu'on a pu visiter ensuite, c'est-à-dire Irpin, Boutcha, Hostomel, qui étaient des villes qui ont vécu sous occupation russe pendant plus de 3 semaines. Et là, oui, quand on a rencontré des civils, c'était compliqué, parce que ils voulaient tous nous parler. Ça, c'était très bien, parce qu'ils ont tous accepté de nous parler, mais ils étaient complètement hébétés. Enfin, il faut imaginer des gens qui sortent de leur cave. Ils ont vécu dans leur cave pendant 3 semaines. Ils ont eu peur. Ils ont vu les Russes. Ils ont vu des gens se faire tuer devant eux. Je suis en train de plomber l'ambiance de Radio Alpha là quand même.
C'est intéressant de découvrir justement comment ça se passe sur le terrain et quelle est ta réalité à toi. Est-ce que les images et les valeurs qu'on perçoit nous du peuple ukrainien à travers nos écrans sont celles que tu as pu voir à travers tes rencontres?
Ah bah oui, c'est-à-dire c'est à toi que je devrais demander qu'est-ce que tu as perçu de nos reportages, comment étaient les Ukrainiens, pour voir si j'avais...
Je les ai trouvés courageux.
C'est
impressionnant de voir un peuple comme ça
qui
ne quitte pas son pays, qui ne quitte pas sa nation. Mais je voulais voir justement une fois sur place, puisqu'on entend plusieurs choses à travers ces images-là. Est-ce que toi, cette réalité-là, tu l'as vécue?
Ah, complètement. Moi, je les porte dans mon cœur, les Ukrainiens, pour le courage qu'ils ont et la force qu'ils ont de tenir, de ne pas partir, de ne pas fuir. Alors, ils ont évidemment cette loi qui fait que les hommes, tous les hommes en âge de combattre doivent rester. Ils n'ont pas pu fuir. Hein. On en a vu, nous, à la frontière, se faire recaler. Hein. Ils voulaient partir avec leurs enfants, leurs femmes, et c'était absolument déchirant comme scène, parce qu'ils ont laissé partir leur famille et eux restent pour se battre. Mais il y a un élan, enfin vraiment un élan patriotique que j'ai rarement vu ailleurs, et je trouve ça très beau. Et quel que soit l'âge des gens là-bas, et quelle que soit leur fonction ou leur poste, est-ce qu'ils vont s'engager dans la défense territoriale en tant que civil, ou est-ce qu'ils vont juste aider comme les femmes qui restent, les militaires, leur faire à manger, etc. C'est un élan de solidarité et une union entre eux qui est très belle, et c'est vraiment ce qui m'a le plus marqué là-bas.
C'est ce que tu retiens le plus de cette mission-là?
Oui, je préfère en garder de belles images comme ça, tout à fait.
Côté positif. Et si tu devais repartir en Ukraine, est-ce que tu serais prête? Tu dois être
absolument
sur le terrain. Tu y vas, tu fonces.
Ouais, c'est pas prévu pour tout de suite, mais évidemment, c'est quelque chose qu'on a qui démange à l'intérieur. Là, ça fait plusieurs jours que je suis rentrée, et comme j'ai dit déjà plusieurs fois, on laisse aussi les proches souffler, parce que j'ai une famille.
C'est stressant pour eux.
Des amis proches,
peut-être,
ouais, c'est stressant pour tout le monde.
Parce qu'ils n'ont pas de nouvelles, j'imagine que tu n'as pas de
contact. Si, je donne beaucoup de nouvelles. Dès que ça capte, on donne des nouvelles, mais bon, ils ont l'habitude, hein. Ça fait 10 ans que je fais ce métier. Ils ont vraiment l'habitude de ça.
Est-ce que tu as des missions déjà prévues à l'étranger, ou justement, comme on disait juste avant, c'est au feeling à chaque fois, ces missions-là?
Alors, c'est au feeling. Tout dépend de l'actualité, là, de ce qui peut se passer. J'aimerais... c'est prévu, mais bon, c'est prévu sans être officiel, etc. Mais évidemment, j'aimerais aller couvrir les élections présidentielles au Brésil. avec Bolsonaro face à un Lula qui revient, ce serait voilà, ça c'est
le Brésil. Tu as d'aller couvrir ce
Ah oui, non mais le Brésil c'est mon pays de cœur, donc je connais bien.
Et si on veut trouver pendant la semaine, revoir tes reportages sur M6, c'est ça?
M6 Info, sur les réseaux sociaux, vous avez mon Instagram, laetitia.simoes, très simple, TikTok maintenant, je me suis mise à TikTok, je suis super fière, ouais. J'ai l'impression d'être une aïeule, quoi, mais c'est pas grave, j'apprends les codes des jeunes. Non, mais c'est, je poste pas mal de reportages sur mes réseaux aussi.
Interview sur Termstadt.1 avec la journaliste Laetitia Simoes. On vient de parler de ta carrière et ton expérience sur les zones de conflit, notamment en Ukraine. Merci d'avoir témoigné d'ailleurs, Laetitia.
Avec plaisir.
Et on va parler maintenant de ta double nationalité, de cette culture-là que tu as. Mais avant, Julie, elle a une question pour toi.
Ouais, c'est ma petite question secrète tous les samedis. Alors, je voulais passer un petit peu quelque chose de plus positif que l'Ukraine.
Allons-y.
C'est quoi le meilleur reportage que tu as fait? Ton préféré? Si tu veux choisir qu'un seul.
Impossible de choisir.
Bon courage pour choisir.
Non, c'est impossible. Tu sais, je me souviens même pas de ce que j'ai fait hier, alors j'en ai fait tellement. Non, allez, l'un des plus marquants, en plus, je pense que ça va complètement vous parler, c'est d'avoir rencontré le président portugais, parce que je l'ai interviewé l'an dernier, Marcelo Rebelo de Sousa, qui est incroyable, je peux le dire. C'est un personnage hyper intéressant, hyper intéressé par les gens, que tout le monde connaît là-bas, et je pense que voilà, il a une popularité qu'il n'a pas volée. Donc c'était incroyable du début à la fin. Même j'ai cherché à le contacter par ses contacts presse. Finalement, c'est lui qui m'a rappelé directement. Ah ouais. Avec son numéro, son 91, puisque c'était énorme. On peut dire. Voilà, un jour je sors du métro, un soir je vois un téléphone portugais qui a un numéro portugais qui m'appelle. Et je réponds, il me dit oh non, c'est Marcel.
Le Marcel.
Alors là, vous ne voyez pas ma tête, mais j'ai la bouche grande ouverte. Absolument. Et en plus, je reconnais sa voix et je me dis non, mais qui est-ce qui est en train de me faire une grosse blague? Et je regarde mon téléphone 3 fois, je me dis, en plus, c'était sur mon téléphone pro. Je me dis, mais qui connaît mon téléphone dans mes amis portugais? Qui sait que j'essaie de joindre le président? Et donc, il a dû me trouver un peu bête. Je dis, voilà. Et puis il me dit et en plus il parle très très bien français, donc il me dit alors est-ce qu'il paraît vous cherchez à me joindre, vous voulez me voir, quand est-ce que ça vous arrange? Je dis monsieur le président, c'est peut-être à vous de demander, enfin à vous à qui je dois demander votre agenda. Il me dit demain, ok. J'ai pris mes billets et on est parti à deux le rencontrer, on l'a interviewé, il est arrivé tout seul, pas de garde du corps, comme on le décrit là-bas en fait. Et c'est drôle parce que j'ai un groupe WhatsApp avec toute ma famille, d'ailleurs un petit dédicace à Familia Parada qui m'entend depuis Portugal maintenant. Et je leur ai écrit, c'est incroyable, Marcel, il m'a répondu directement et en fait ils étaient même pas étonnés. On dit mais tu sais qu'on l'a tous rencontré au moins une fois dans un restaurant, dans un bar, à la plage, donc c'est vraiment le pote de tout le monde. Et puis.
Faut qu'ils deviennent potes avec Timstad, là.
Ouais, je vous donnerai son numéro ou non. Non, mais d'ailleurs, Marcel, si vous nous entendez, un bonjour de France, des Portugais de France.
Et on est nombreux.
Il sera très, très content. Il est très content.
Et on va maintenant parler donc de la lusophonie. On est déjà avec Marcelo.
Ouais.
Alors, tu viens d'où du Portugal?
Comme vous, moitié-moitié, quoi. Il y a toujours. Les parents viennent d'horizons différents. Plus du nord, évidemment, parce qu'on est plus du nord ici. Mon papa est de Mielhad, Quintanillette même, plus précisément, d'un petit village à côté. Et ma mère du nord, Bragance, Ized, exactement, ce qui est devenu une grande ville maintenant.
Donc, les trajets en voiture, tu connais ou pas?
Bien sûr, la base.
Les longs trajets.
Les trajets. Tout à fait, avec mon frère, que je salue, évidemment.
Ça va, ça se passait bien dans la voiture?
J'ai le souvenir que oui. Ma mère m'a dit, mais c'était merveilleux, vous étiez super. Et moi, aujourd'hui, avec des enfants, je me dis, mais c'est l'enfer. Jamais je fais ça. Franchement, chapeau à tous les Portugais qui ont fait ça, quoi.
Mon père, il avait la tech, on partait la nuit comme ça, mais c'est vraiment, on dormait.
Mais nous aussi, on faisait ça. Mais là, c'est trop compliqué.
Et si tu devais nous dire aujourd'hui ce que t'apporte la lusophonie, cette double culture-là?
Bah écoute, je pense que c'est ce qui m'a permis de faire ce métier déjà, parce que je serais jamais partie au Brésil si je ne savais pas parler portugais. Ça m'a vraiment permis de d'avancer professionnellement. Et puis à côté de ça, j'ai rencontré des gens super au cours de mes études, de ma scolarité, que ce soit dans mon association de cours de portugais où j'allais tous les samedis après-midi. Au début, j'en pouvais plus. Je dis à ma mère, mais là, je veux pas y aller. Je vais aller voir mes copines et tout. Et finalement, c'était génial. J'avais une prof, Christine, qui m'a donné le goût pour la littérature portugaise, pour vraiment le portugais, pour l'histoire du Portugal. Et puis j'ai rencontré plein de copines. Aujourd'hui, on est toujours super proches. Donc, mais go le Portugal, quoi.
Tu gardes un beau souvenir du Portugal.
Ah, mais oui, absolument.
Du Brésil aussi, on peut parler aussi.
Ouais, c'est très différent. Ouais. C'est très différent. Et rien que la langue, tout à l'heure, on en parlait. Moi, la première fois que je suis arrivée au Brésil, la deuxième fois, je suis arrivée à Rio. Je voulais prendre le métro, pour l'anecdote, je vous raconte ça. Et j'ai demandé à quelqu'un mon chemin en portugais, et il m'a dit Do you speak English? Parce qu'il comprenait pas mon portugais du Portugal. Oh, et là, j'étais trop vexée. J'ai fait c'était nous les premiers, d'accord.
Merci Laetitia d'avoir répondu à toutes mes questions, pardon. Et on va finir avec le fast. Donc tu as deux options et tu dois choisir ce qui te convient le plus.
Ok.
On va essayer d'être fast. Alors, tu préfères être à la rédac ou sur le terrain?
Ah, terrain.
Porto ou Lisbonne?
Lisbonne.
Plutôt sport ou dodo?
Sport.
Présenter le JT ou faire des reportages?
Faire des reportages, parce que présenter, je ne sais pas.
T'informer sur la presse papier ou sur les réseaux?
Sur presse papier.
Plumos ou Azeitonas?
Azeitonas.
Journaliste en France ou être journaliste à l'étranger?
En France et puis partir à l'étranger.
Donc tu préfères être interviewé ou interviewé?
Non, interviewé, à 3000%, oublie.
En tout cas, tu t'es très bien débrouillé en tant qu'invité.
Ok, merci, super.
Je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir participé à Termstat 2.1 sur Radio Alpha aujourd'hui. Et bravo pour tout le travail
que tu fais. Merci, c'est gentil. Merci à vous d'avoir invité.
Merci à toi. Et pour finir, les bons plans, Tony, on en a quelques-uns.
Il y en a quelques-uns. Le Portugal Comedy Club édition 3 qui aura lieu le vendredi 13 mai prochain. Vous pouvez toujours acheter des places. Le lien est disponible sur la bio du compte Instagram du Portugal Comedy Club. Aussi simple que ça, comédie en anglais avec un Y. Ontras Pluma Galinha, c'est le nom de l'événement lancé par Cap Magellan. Donc si vous souhaitez peindre une structure composée de bois ou de métal sur le thème de l'océan, la ludophonie et Magellan en règle générale, ce sera à la cité universitaire dans le cadre de la fête de la cité entre le 13 et le 15 mai. Et toujours pour Cap Magellan qui font un appel à bénévoles pour la campagne de sécurité routière 2022 qui s'appelle Sécurité. Donc si vous voulez aider, n'hésitez pas à contacter l'association au 01 79 35 11 00 ou par mail au info@capmagellan.org, simple que ça. Et ça, c'est pour vous. On fait toujours gagner en partenariat avec le Braga Dancefloor, 3 lots de casquettes à l'effigie du festival. Et elles sont très très belles, franchement. Le concours est déjà en cours sur notre page Instagram depuis lundi. Toutes les modalités y sont spécifiées. Donc si vous avez jusqu'au 14 mai, samedi prochain, on fera tirer le sort en direct dans l'émission. Donc tentez votre chance.
Merci Tony, merci à vous qui nous écoutez. Comme chaque samedi, on se retrouve samedi prochain dès 14h sur Radio Orf. Merci beaucoup Laetitia.
Merci à vous
d'avoir participé à Termstat 2.1. Et l'équipe, moi je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et bonne semaine à tous.
Ciao.